Donc moi, je vais centrer mon intervention sur l'exploitation idéologique de l'histoire coloniale. Je ne reviendrai pas sur l'histoire coloniale elle-même. Olivier l'a suffisamment fait, l'a suffisamment clairement fait. Donc je vous dis un petit peu le plan que je vais suivre de manière à ce que ce soit plus simple, et pour moi et pour vous, je pense. Donc je vais commencer donc par dire ce que, de mon point de vue, nous vivons dans un contexte qui est nouveau aujourd'hui, en 2016, par rapport à il y a très peu de temps. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Et ensuite, je parlerai, pour coller à la réalité de ce qui nous est demandé, des ruptures et des continuités. Je parlerai de ce que je crois être des ruptures importantes dans cet espace de temps qui a fait que le contexte a rapidement changé. Et pour ce qui est des continuités, eh bien, j'en donnerai aussi quelques-unes, les constantes qui sont aujourd'hui toujours là et qui alimentent les discours que l'on connaît, hélas, qui alimentent toute cette montée des idéologies d'extrême droite, du racisme et tout ce qu'on veut. Donc je commence par, par vous dire deux mots de l'association des mineurs progressistes ici, comment elle se situe, et comment elle se situe dans ce contexte, de mon point de vue, nouveau. Alors, pour ce qui est du contexte et de ce que je crois, de ce en quoi je crois il a changé, je dirais que jusque dans les années, disons 2010, l'exploitation idéologique de l'histoire coloniale était relativement simple. Elle se caractériser par deux points majeurs, sans entrer, il y a évidemment d'autres points, mais il y a deux points majeurs de mon point de vue. C'est d'une part le refus de l'État de reconnaître, je parlerai essentiellement de la colonisation de l'Algérie, parce que c'est ce que je connais, je ne suis pas du tout un historien spécialiste de la décolonisation, je me référerai donc à la colonisation de l'Algérie. Donc le premier point, je crois, ça a été le refus de l'État français de reconnaître les horreurs qui ont été commises pendant plus de 130 ans par la France en Algérie. Et simplement ce refus d'avoir un regard, de permettre à la société d'avoir un regard froid sur ce passé colonial. Et au contraire, c'est le deuxième point qui, de mon point de vue, peut-être caractérisait la situation vers les années 2010, c'était la louange de l'œuvre civilisatrice de la colonisation, ce que Olivier a largement développé, c'était les aspects positifs de la loi de 2005, etc., avec dans ces extrêmes une liberté de parole et un soutien idéologique qui était laissé à ce qu'on appelle les nostalgériques, les organisations, disons, dans lesquelles militent des pieds noirs d'extrême droite, et qui, là, pour le coup, chantaient la beauté de l'Algérie française, la glorification de l'OS et tout ce qu'on veut. Alors ça existe encore. Il y a bientôt, à Condom, dans le Gers, pas loin de chez vous, une réunion du cercle algérianiste, qui est un ramassis de fasciste, oui, si on veut, c'est plus simple de dire comme ça, même si c'est un petit peu raccourci, et voilà. Mais je crois que maintenant, cette agitation là est devenue, je crois, marginale, inopérante, tout simplement, dans le contexte actuel. Et j'en viens, si vous voulez, à dire en quoi la situation aujourd'hui est nouvelle. Elle est plus compliquée que précédemment, parce que s'y mêle la montée des idéologies d'extrême droite, la faillite du gouvernement dit de gauche, le terrorisme islamique, la crise des migrants chassés par la guerre et par la misère, la ghettoisation des banlieues et le racisme anti-arabe, notamment, et son corollaire, le risque d'un repli identitaire. Et pour le coup, là, le passé colonial, il n'est plus là pour être regretté, ce que font les nostalgériques, mais il est là simplement pour alimenter le racisme et les idéologies d'extrême droite. Quels sont, là pour le coup, dans notre histoire récente, dans ce que je crois être le moment où le contexte a changé, quelles sont les ruptures? Je vais en donner trois, il y en a bien d'autres sans doute. Il y a une chose qui a été marquante, c'était la marche pour contre le racisme et pour l'égalité. Vous savez ce qu'on a appelé la marche des beurs de 1983. Alors c'était quelque chose qui était intéressant, mais qui n'a pas eu de suite. Ça a été une alerte qui a très vite été maîtrisée et puis éteinte par SOS Racisme notamment. Un premier moment de rupture, de mon point de vue, et de rupture franche et forte, ce sont les émeutes de 2005. Les émeutes de 2005 dans les banlieues des villes, des émeutes qui étaient portées par des jeunes qui étaient pour la plupart issus de l'immigration post-coloniale, donc des jeunes français. Et en vérité, ça a exprimé, ces émeutes ont exprimé peut-être plus que la colère contre les policiers impunis, contre l'impunité des policiers qui avaient poursuivi ces jeunes qui sont éventuellement poussés à s'électrocuter, donc la mort de ces jeunes. Je crois que ces émeutes étaient en vérité une colère massive qui était portée par des enfants de l'immigration contre le sort qui leur était fait, contre la violence sociale, contre la précarité, contre l'avenir bouché, contre l'humiliation, la discrimination. Et ça, c'est pour moi, ce moment-là a été une rupture très, très forte. Le malheur, la réalité, c'est que aucune leçon n'a été tirée des émeutes de 2005. Rien de significatif n'a été fait pour tenter de corriger la situation. Et au contraire, cette population de jeunes émeutiers, ceux qui refusaient le sort qui leur était laissé, eh bien, cette population a été stigmatisée, désignée comme un ennemi intérieur. Rappelez-vous Sarkozy et son Karcher. Hein. Et puis la répression, l'état d'urgence qui a été prolongé. Et puis tout ça accompagné de campagnes racistes qui se développaient. Dès cette époque-là, dès le lendemain de 2005. Ce à quoi ça a conduit, c'est à une marginalisation plus forte encore de la banlieue. Et un deuxième point de rupture, en réaction à cela, ça a été le développement d'un communautarisme réel. Quelque part, la recherche et puis la revendication d'une identité. Et une identité où la religion devenait un repère important. La religion musulmane devenait un repère important. Peut-être qu'on reviendra sur ce deuxième point que j'estime être un point de rupture. Le troisième point de rupture important, très important, ça commence avec en 2007, avec le fait de théoriser l'identité nationale française et poser cette définition de l'identité nationale française comme un moyen de maîtriser, de canaliser les revendications de l'immigration. Donc poser une vision de l'identité nationale en contradiction avec l'immigration. Et quand on dit l'immigration, c'est pas le nouvel arrivant, c'est les nouveaux arrivants et leurs descendants, les anciens arrivants, c'est les Français d'ascendance maghrébine, d'Afrique noire, Ce sont tous ceux-là qui sont mis dans le sac de l'immigration. Voilà les trois points de rupture que je voulais peut-être soulever. Et j'en viens aux continuités qu'on peut regretter, contre lesquelles il convient de se battre. La première, et Olivier l'a déjà évoqué, c'est l'incapacité de l'État français à reconnaître de manière officielle la réalité du colonialisme. Et en ne le faisant pas, il affirme son incapacité à construire un discours qui soit commun à tous les citoyens, qui soit reçu par tous les citoyens. Et en conséquence de cela, le fait colonial, puisqu'on ne le traite pas, la colonisation de l'Algérie, pour ce qui nous intéresse, reste clivant aujourd'hui en France, et il reste tout à fait disponible pour alimenter toutes les campagnes racistes qu'on connaît. La deuxième continuité, c'est le racisme affirmé, banalisé, la banalisation du racisme. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, 2007, rappelez-vous, Sarkozy, jusqu'au projet de déchéance de nationalité de 2016, Hollande, retiré. Même s'il est retiré, il en laisse des traces. Et de toutes ces incitations, on en arrive à déchaîner des discours identitaires, islamophobes, de haine contre les musulmans ou de haine contre ceux qui sont supposés être musulmans. Qu'il soit le soit ou qu'il ne le soit pas, n'a pas d'importance en l'occurrence. Il s'agit d'un racisme anti-arabe. Et ça prend des formes différentes. D'abord, on s'attaque à la religion elle-même. On ne fait aucun distinguo entre islamisme et islam. Tous les musulmans ou ceux qui sont supposés musulmans sont des terroristes en puissance. Ensuite, on s'attaque plus directement aux Français musulmans. Et on en arrive à dire que ces Français musulmans, de confession musulmane, sont dans la réalité étrangers à la société française. Et que, pour le coup, la question n'est même plus de tenter de les intégrer. Rappelez-vous, c'est une sortie de Sarkozy il n'y a pas longtemps. Il s'agit maintenant de les assimiler. On les assimile comme on digère quelque chose. Voilà, c'est-à-dire on les assimile et on leur reconnaît aucune identité particulière, aucune histoire qui serait la leur, aucune revendication qui leur serait spécifique. La troisième continuité, c'est le développement du discours sur l'identité nationale. Non, je reviens, j'oublie une chose, je voulais parler un petit peu du voile et de la crispation autour du voile. Et Sarkozy, vraiment, est à toutes les sauces. Sarkozy, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, a dit que bientôt, demain, il promettait de l'interdire dans l'espace public. L'interdire dans l'espace public, ça veut dire l'interdire partout, sauf chez soi. Ça veut dire que, l'interdire tout court. Alors, dans le voile, cette crispation autour du voile, est-ce qu'il faut n'y voir qu'un symbole de l'asservissement des femmes? Ou alors, est-ce qu'il faut y voir qu'un symbole de leur enfermement dans la tradition patriarcale? Pour suivre Elisabeth Badinter, une phrase qui me sidère toujours encore, je la cite, on leur impose de cacher leurs cheveux parce que des hommes les tiennent responsables d'un désir sexuel qu'ils, les hommes, ne savent pas maîtriser. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse. On est, pour le coup, incapable de voir autre chose que cela. Il y a peut-être de cela, notamment sur le fait d'un symbole anti-féministe. Mais il faut voir plus loin que ça. Est-ce que le foulard n'est pas une manière d'exprimer des revendications identitaires, d'une forme d'affirmation de soi-même. La liberté d'être une femme qui est à la fois musulmane, laïque, républicaine, est-ce que c'est pas ça aussi ? Je me pose la question. Troisième continuité, si vous voulez, c'est donc le développement du discours sur l'identité nationale. Je ne reviens pas sur ce qu'on sait, hein, de la difficulté de parler d'une identité nationale quand on sait le caractère pluriculturel, multiculturel de notre société, de la diversité et du pluralisme qui en font sa richesse. Mais je voudrais quand même faire deux remarques qui me semblent pour le coup importantes dans ce contexte-là. La première, c'est à propos de la surenchère à laquelle on assiste dans le discours sur l'identité nationale. Hein, voilà, ça devient le récit, le roman, le catéchisme national. Hein, ce discours qui est porté par la droite, l'extrême droite, hélas parfois par une partie de la gauche, et qui exclut tout ce qui n'est pas gaulois ou qui n'est pas de racines judéo-chrétiennes. Et ce discours devient aujourd'hui dominant, pénètre. Il est banalisé et il pénètre dans la conscience. Et face à ça, eh ben, il y a un silence, une sorte d'atonie des progressistes sur cette question. Comme si on estimait que cette bataille idéologique était déjà perdue et qu'on ne pouvait pas revenir là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me, quelque part, me désespère vraiment beaucoup. Le deuxième point sur l'identité nationale, ça concerne les quartiers et de la revendication identitaire, dont je parlais tout à l'heure un petit peu à propos du voile, qui peut glisser vers un repli identitaire et avec des dérives supplémentaires qui peuvent aller plus loin et qui sont inquiétantes. On ne peut pas le nier. Elles sont inquiétantes en elles-mêmes et elles sont inquiétantes aussi parce qu'elles occultent toutes les questions d'ordre social sur la précarité, le chômage, l'exclusion, etc. Et ça empêche aussi, de fait, ou ça occulte toute possibilité de convergence avec la lutte des autres qui ne sont pas soumis au même régime que cela dans les quartiers. Voilà donc les deux points. Je voulais juste finir par dire un petit peu comment, de mon point de vue, tout ça, tout ce que j'ai dit là est personnel et n'engage pas l'association, évidemment. Hein. Mais je voudrais dire quand même que tout ça, ça a beaucoup changé la manière dont on voit l'activité, les objectifs de l'association des peineurs progressistes et leurs amis. Lors de la création, les choses en 2008, donc les choses étaient simples. Il s'agissait de contrer les nostalgériques, de faire des manifestations, des contre-manifestations quand ils manifestaient, de porter un autre discours, témoigner auprès de journalistes, d'historiens, etc. Finalement, c'était relativement simple. Et puis on affirmait, bien entendu, en tant que fils d'Algérie, notre solidarité avec les Algériens, etc. C'était simple de dire ça. Dans le contexte actuel, le nouveau contexte dont je parlais tout à l'heure, eh bien, les choses ne sont plus si simples que ça. De mon point de vue, contrer l'expression l'agitation des nostalgériques, ça devient secondaire. La chose essentielle, importante, c'est d'agir dans la société, d'agir avec les autres forces progressistes contre la montée des idéologies extrême droite, contre le racisme, contre les différentes formes de racisme. Il n'y a pas que le racisme anti-arabe, il y a la négrophobie, il y a l'antisémitisme et tout ce qu'on veut. Et donc d'aller vers des initiatives, de multiplier des initiatives allant dans ce sens. Un point sur lesquels je, pour terminer, je diverge avec Olivier, comme ça, ça lui permettra de diverger aussi, de me répondre, c'est sur le fait que la bataille pour la connaissance deviendrait secondaire devant la nécessité par une reconnaissance de l'État. Moi, je crois que la connaissance, portée à la connaissance, notamment des jeunes, notamment en milieu scolaire, et c'est ce qu'on fait dans l'association avec d'autres, parler de la réalité de la colonisation, parler des horreurs de ce que ça a été, etc., c'est quelque chose qui est essentiel. S'il y a un besoin de connaître qui s'exprime avec une force formidable auprès par les élèves quand on va discuter de ça avec eux. Et ça, ce besoin de connaissance, je crois qu'il est très fort. Voilà.